comparé à moi, donc ça implique. Je suis un petit peu nerveux. Ah, vous autres, hein? Disons, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné. La dernière fois que j'ai enseigné, c'est au cégep de Jonquière. J'avais devant moi une vingtaine d'étudiants. Il y en avait qui avaient des maîtrises, des doctorats. J'enseignais la gestion de la qualité. Parce que moi, donc, je suis un gestionnaire de qualité. C'est ça. Fait que j'enseignais à des gens qui étaient, disons, beaucoup supérieurs à moi en éducation. Je tremblais comme une feuille. Ce matin, c'est pas si pire. J'aimerais débuter avec une lecture que j'ai lue cette semaine. Disons, c'est concernant des arbres. Hein, je ne sais pas si vous avez lu dans La Bonne Semence. Hein, c'est un palmier. OK. Fait que, ça fait quoi un palmier? Un palmier, on les retrouve où il y a de l'eau. Puis le palmier fait des racines profondes. Puis là, ça me faisait penser à nous. Avec la parole, on fait des racines profondes. Fait que ce matin, on va débuter par un mot de prière. Dieu notre Père, puissions-nous faire des racines profondes, qu'on puisse puiser dans ta parole, qu'on puisse puiser, Seigneur, par ta grâce, par ton esprit, qu'on puisse le manifester dans nos vies, qu'on puisse le manifester autour de nous, que ce soit pour ta gloire, Père. Au nom de ton Fils Jésus, amen. Le titre de mon message, faisons-nous confiance dans le Dieu de la Bible? Ben, probablement, vous allez tous me dire oui. Ben, moi, le premier. Mais mon texte de référence va être dans Psaume. Le Psaume 86. Le Psaume 86, évidemment, c'est un psaume de David. Prière de David, « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis mon âme, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta grâce, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Enseigne-moi tes œuvres, qui dit le psalmiste. Ce matin, j'aimerais vous conter des histoires. Parce que si on veut faire confiance au Dieu de la Bible, il faut le connaître. Mais aussi, il faut connaître l'ennemi, qui est Satan. Ce matin, j'aimerais vous amener dans deux textes qui nous apprend à connaître. Parce que dans le texte qu'on a lu de Psaume 86, donc, David connaissait très bien son Dieu. Mais il dit, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » Fait qu'effectivement, on a besoin qu'on soit enseigné. J'aimerais vous amener dans Genèse 3. Là, ce matin, on va passer la Bible au complet, de Genèse à Apocalypse. J'espère que vous n'êtes pas pressés parce que vous allez sortir tard d'ici. Non, non. Mais dans Genèse 3, on voit que c'est la création, hein, la tentation et la chute. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 3? Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu? Ça nous apprend que Adam et Ève ont chuté. Hein? Ils ont désobéi. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Vous n'en mangerez point. Qu'est-ce que Satan leur a dit? Ah, bien, pas de problème. Hein? Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel les chassa du Jardin. Il les a chassés du Jardin. Dieu avait dit, si vous en mangez, vous allez mourir. Il les a chassés du Jardin. Mais si on voit aussi dans le texte, c'est que Dieu les a habillés. Ils étaient nus, ils ont reconnu qu'avant ça, ils étaient innocents. Ils ne voyaient pas leur nudité. Et ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et puis là, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, ça nous apprend que Dieu est amour. Même si on pêche, Dieu, si on vient à lui pour lui demander pardon, il va nous pardonner. Dans sa miséricorde, il les a habillés. Adam et Ève avaient essayé de s'habiller eux-mêmes, ça n'a pas fonctionné. Donc, Dieu dit, non, c'est pas de cette façon-là. Qu'est-ce que ça nous dit aussi dans ce texte-là? La première prophétie qui a été annoncée, c'était justement au verset 15 de Genèse 3. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton image, entre son lignage et son lignage. » Celui qui, si tu écraseras la tête, tu lui blesseras le talon. C'est la première prophétie qui a été annoncée, a été réalisée par qui? En partie par Jésus. Mais je dis en partie parce qu'elle n'est pas finalement réalisée, parce que quand Jésus va revenir à la fin des temps, ça va se réaliser. Pour l'instant, donc, on est des participants à la réalisation de cette prophétie-là, qui a été réalisée par Jésus à la croix. J'aimerais vous amener aussi dans Exode 3. Exode 3, ça nous raconte l'histoire, mais que j'aime bien, de Moïse. Exode 3. Parce que la Bible nous apprend sur Dieu. Et puis aussi, nous fait réaliser les qualités de Dieu. Puis dans Exode 3, disons, le buisson ardent, l'appel de Moïse. Au premier verset, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. OK. Dieu se révèle à Moïse, il l'appelle. Moïse, au verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consomme point. OK. Fait que finalement, donc, Moïse voulait voir, mais Dieu l'a protégé. L'Éternel vit qu'il se détournait pour le voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il lui dit, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Dieu l'a protégé. Bon, on voit que Dieu se révèle à Moïse, il l'appelle, et puis Dieu lui donne une mission. Mais Moïse ne veut pas y aller, là. Moïse a passé 40 ans dans le désert avec les brebis. Parce qu'au départ, Moïse, on connaît tous l'histoire, là, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais Moïse, au départ, était bien intentionné. Il a voulu défendre un Israélite qui était maltraité par un Égyptien. Mais il l'a tué. Puis là, il s'est enfui dans le désert. Mais là, au chapitre 4, la première objection de Moïse, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. » Mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit une vierge. Bon, je ne lirai pas tout le texte, parce que probablement que vous le connaissez aussi. Mais Moïse, il ne veut pas y aller. La deuxième objection de Moïse, au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. » Bon, il ne veut pas y aller. C'est clair, il ne veut pas y aller. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? » Bon, et qui rend muet ou sourd? Mais effectivement, donc, Dieu intervient avec Moïse, il y a un échange. Qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu? Ça nous apprend que Dieu peut nous parler à travers sa parole. C'est pour ça que faisons-nous confiance dans le Dieu de la Bible. Il dit, va, au verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche. » OK, c'est beau. Là, après ça, ça ne finit pas là. Là, il dit à Moïse, « Je t'envoie à Aaron. » Mais au verset 14, « Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. » Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici. » Là, la colère de l'Éternel. Mais on ne voit pas les conséquences de sa colère, la colère de l'Éternel. Parce que bien souvent, on voit que dans la colère de l'Éternel, les fils de Corée sont tous morts. Donc, effectivement, Dieu, dans ce cas-là, il est en colère. Ça nous apprend que Dieu peut se mettre en colère. Pourquoi faire confiance? Pourquoi faire confiance dans le Dieu de la Bible? J'aimerais... On va voyager un peu. Donc, avant que la terre soit créée, il y avait des êtres spirituels, il y avait des anges, il y avait des archanges. Dans Isaïe 14, le verset 12, Isaïe 14, le verset 12, Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ah, c'est Satan. Te voilà tombé du ciel. La terre est son domaine. Je ne vous apprends rien. Hein? Il y a un monde invisible. Ça, la Bible nous l'enseigne. Il y a un monde spirituel. Il y a une bataille qui est livrée. Et puis, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est dans Daniel 10. Daniel 10. À partir du verset 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Ouf! Qu'est-ce que ça nous apprend? Daniel a prié. Ça a pris 21 jours. 21 jours. Nous, quand on prie, on aimerait ça avoir la réponse hier. Hein? On n'est pas patient. Moi, personnellement, donc, c'est pas ma force, la patience. De plus en plus. J'aimerais vous amener dans 1 Corinthiens 15 qu'on connaît. Verset 1. Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il est enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes, 500 frères à la fois. OK. Est-ce que ça nous donne une bonne fondation pour croire que la Bible est bien la parole de Dieu? Moi, personnellement, je peux vous répondre. Quand j'ai entendu la première fois, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », j'ai eu à me débattre avec ça. Parce que je me disais, pourquoi je croirais ça plus que d'autres choses? Mais ça m'a fait creuser, chercher. Je me suis acheté des Bibles en anglais, en français, dans toutes les versions, jusqu'au temps que le Saint-Esprit me convainque que la Bible était la parole de Dieu. Une fois que ça est fait, qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu, il faut agir selon ce qu'elle nous enseigne. Tantôt, je vous disais qu'il y a un monde invisible. Et puis, moi, de métier, disons, je suis métallurgiste. Au départ, donc, j'ai étudié en métallurgie. J'ai étudié la physique nucléaire parce que j'étais spécialisé en essais d'ondes destructives avec des isotopes, des radiations. Mais avant d'utiliser le matériel radioactif, j'ai eu à apprendre à connaître c'était quoi. À craindre les radiations, mais les craindre d'une façon à m'en servir avec sécurité. J'ai appris à craindre. Je suis encore en vie. J'ai des compagnons de travail qui, eux, sont morts parce qu'ils n'ont pas craint. Les radiations, disons, on va à l'hôpital, on passe des radiographies. Ça ne fait pas mal. Est-ce que quelqu'un, ça leur aurait fait mal d'avoir des radiographies? Non. Mais ça peut tuer. Donc, il faut avoir une crainte, pas paralysante, mais qui nous fait respecter, effectivement, ce que c'est. Quand je lisais l'épisode de Moïse, bon, je ne sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer. Oppenheimer, c'est lui qui a mis en œuvre les théories d'Einstein sur la bombe atomique, la bombe nucléaire. Einstein avait découvert plein de choses, même encore aujourd'hui. On ne comprend pas tout ce qu'il avait découvert. Mais Oppenheimer, disons, a développé avec d'autres physiciens la bombe nucléaire. Là, je me disais, bon, OK, j'imagine Jethro qui va voir Moïse. Là, il dit, Moïse, j'ai découvert quelque chose. Là. Les Égyptiens, on va s'en débarrasser. J'ai découvert là, la physique nucléaire. Mais c'était pas, à cette époque-là, c'était pas connu. Actuellement, on vit à une époque que David avait seulement les cinq premiers livres, à peu près, de l'Ancien Testament. Puis il avait développé une confiance en Dieu. Pourquoi? Mais David, il était berger, comme Moïse. Et puis, quand il est arrivé que son père l'envoie pour voir ce que ses frères faisaient, là, il y avait Goliath. Là, il insultait le Dieu, son Dieu. Là, il n'y a personne qui voulait y aller, il avait peur. David disait, oh, pas de problème, vous voyez les moins. Là, Saül, il dit, non, tu ne peux pas y aller, tu es bien trop jeune. Là, finalement, il a cédé, il a équipé de l'armure et tout ça. Là, ça ne fonctionnait pas. Parce que David n'avait pas été préparé à combattre de cette façon-là. Ce n'est pas un gars, une personne de guerre, David. C'est quelqu'un qui protégeait ses brebis. Mais il avait été bien formé. Il était capable d'enlever ou de protéger ses brebis au point de combattre des ours et des lions. Pensez-vous que c'était la première fois que David, avec sa fronde, tirait des roches? Non. Il avait été préparé. Il avait été préparé. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. OK? Le dictionnaire nous dit que la foi, c'est la confiance et la certitude. Dans Hébreux 11, 6, ça nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais ce qu'on on est habitué de, avec le psaume 105, 119, 105, avec ce verset-là. Mais le verset 104 aussi est intéressant. Parce que c'est une préparation, disons, au verset 105. Le verset 104 nous dit, Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Est-ce que c'est possible qu'on puisse devenir intelligent par la parole de Dieu? Moi, je peux vous répondre que ça m'a rendu plus sage, en tout cas. Ça m'a rendu plus sage. Deutéronome 29, 29 nous dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Toutes les paroles, en fin de compte, que la Bible nous enseigne. Il faut avoir confiance dans les écrits de la Bible. Moïse a écrit les cinq premiers livres de la Bible 500 ans avant les livres hindous, 2000 ans avant le Coran. Pour nous aider à comprendre, les prophéties sont importantes, à nous aider à avoir une foi ferme, à avoir une confiance dans la parole de Dieu. Plus de 500 prophéties sont déjà réalisées. 500. Plus de 500. Combien qu'il y en a encore à être réalisées, je ne pourrais pas vous dire. Mais excepté qu'il y en a beaucoup qui se sont réalisées, disons, après qu'Israël soit revenu dans leur pays en 1948, une prophétie a été réalisée en 1967 avec la guerre des six jours. Bon, je veux dire, selon les experts en eschatologie, donc effectivement, c'est une prophétie. Il y a une prophétie que j'aimerais qu'on considère, c'est dans Amos 9:15. Amos 9:15. C'est une prophétie, ça, qui va se réaliser, qui n'est pas encore réalisée. Je les planterai dans leur pays et ils seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Bon, en partie, c'est réalisé parce que Israël a retrouvé son pays, mais que ça soit plus arraché, ça, c'est une autre affaire. Il faut apprendre à connaître le caractère de Dieu, la façon qu'il fonctionne, sa puissance. Pourquoi rester dans la volonté de Dieu? Pourquoi rester dans sa volonté? Un petit peu plus loin, on a l'histoire de Jonas. J'imagine que vous connaissez l'histoire de Jonas. Hein, mais ce qui est intéressant de Jonas, Dieu lui demandait d'aller à Ninive. Pourquoi? Pour annoncer que s'ils se repentaient, Dieu leur pardonnerait. Mais Jonas, il ne voulait pas y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Il ne les aimait pas, tout simplement. Au chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, allait à Ninive. Mais là, pourquoi il est allé à Ninive? Il avait passé 3 jours dans un grand poisson. c'est assez convaincant comme... Jonas est allé, qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a une... Les gens, au verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Puis là, ils se sont repentis. Puis là, au chapitre 4, ça nous dit, « Cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. » Hein? Les gens se sont repentis, mais ça ne faisait pas l'affaire de Jonas. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'amour. Effectivement, il manquait d'amour. Moi, ce que j'aimerais mettre l'accent ce matin, c'est que le Dieu de la Bible, son pouvoir de transformer des vies, son pouvoir de transformer des vies, ça a transformé la vie de l'apôtre Paul, ça a transformé la vie d'Augustin, Martin Luther, John Newton. John Newton, c'est le compositeur de Grâce infinie, Amazing Grace. John Newton, c'était un marchand d'esclaves qui est devenu un pasteur. Ça a transformé la vie de Léon Tolstoï, C.S. Lewis, George Miller. Et ça a transformé des vies aussi de nations. Ça a transformé les Celtes d'Irlande. Hein? Ça a transformé les vies des les Vikings sauvages de Norvège, les Indiens au Cap d'Équateur, même des coupeurs de tête d'Amazonie. Imaginez-vous la puissance de la parole de Dieu. Récemment, puis je pense qu'à un moment donné, Brian en a parlé, Jackie Pollinger. Jackie Pollinger, c'est est née en 1966. Et puis, elle, à l'âge de 5 ans, il y a une missionnaire qui va à l'école du dimanche. Là, la missionnaire regarde tous les élèves, là, tous les jeunes. Vous allez être des missionnaires. Elle a 5 ans. Elle dit, je vais être missionnaire. Elle est devenue missionnaire. Savez-vous comment elle est devenue missionnaire? Là, elle dit, Seigneur, elle est rendue à 24 années, elle avait fait ses études en musique. Elle se sentait appelée à aller en mission. Là, elle entendait, va. Va. Là, elle va voir un pasteur anglican. Là, elle dit, là, j'ai la conviction d'aller comme missionnaire, mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment faire ça. Fait que le missionnaire, le pasteur anglican lui dit, « Ben là, si Dieu te dit d'aller, mais vas-y. » Ben, elle dit, « Comment je fais ça? » Ben, il dit, « Prends un billet de bateau le moins cher possible, et puis qui fait le plus de continents possible. Quand Dieu va te dire de débarquer, débarque. » Elle est rendue à 79 ans actuellement. Si vous voulez aller écouter son témoignage sur YouTube, Jackie Pollinger, est débarquée à Hong Kong. Elle est débarquée à Hong Kong. À ce moment-là, elle a 22 ans. Elle débarque à Hong Kong dans ce qu'on appelle un quartier que personne ne voulait aller, tous des drogués, tout ça. Elle a travaillé là. Fait que Dieu transforme des vies. Est-ce que Dieu peut transformer notre vie? Ben oui, Dieu peut transformer notre vie. Le Seigneur promène ses yeux sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Il nous dit dans 2 Chroniques 16, verset 9. Lui faisons-nous vraiment confiance tout le temps? En toutes circonstances, avant de prendre la moindre décision. Si vous demandez à ma femme, elle va vous dire que ça n'a pas toujours été le cas pour ma part. Pour savoir si notre cœur lui est complètement dévoué, posons-nous les questions suivantes. Nous lui faisons-nous confiance entièrement Même si les circonstances nous paraissent étranges et déconcertantes, nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous devons seulement accepter que Dieu sait tout et qu'il nous guidera sans faillir. Marcher par la foi est essentiel. Facile à dire, hein? Si on regarde l'histoire de David, il a marché par la foi. Il avait confiance à son Dieu. Si on regarde la vie de George Muller a marché par la foi. Il a ouvert des orphelinats. Des milliers d'enfants ont été accueillis par le ministère de George Muller. Jackie Pullinger a marché par la foi. Moi, je vous dirais bien que ça a l'air facile à dire, marcher par la foi. Mais quand on est confronté à des décisions, c'est pas toujours aussi facile. Disons, je vais un peu me révéler, sans révéler, des choses sur ma famille, mais moi, donc, j'ai pris des décisions que je n'ai pas consultées l'Éternel. À un moment donné, je travaillais pour Bombardier à la Pocatière. J'ai donné ma démission. Bon, disons, je n'ai pas consulté l'Éternel, là. J'ai donné ma démission. J'avais une compagnie en métallurgie. Et puis, j'ai de la difficulté avec l'autorité. Fait que là, quand tu es ton propre patron, donc il n'y a pas de problème. Là. Bon, j'ai un petit village, Saint-Philippe-de-Néry. Là, j'ai des contrôles. Ça permet de faire vivre notre famille. Là, à un moment donné, Poste Canada m'appelle. Ils disent, Richard, on a entendu parler de toi. On a un bon contrat pour toi. Ah, c'est le fun, Poste Canada. J'accepte le contrat. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Poste Canada paie aux 90 jours. Puis là, il m'avait oublié dans le processus administratif. Ça faisait 6 mois que j'avais pas reçu de chèque de Poste Canada. Là, je peux vous dire là, que je suis allé vers l'Éternel. J'ai consulté l'Éternel. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, je vous le dis, j'étais à genoux dans mon bureau. Là, quand le papier de toilette commence à manquer, là, vous avez un problème. On était rendu à ce point-là. Là, une petite voix qui m'a dit, Richard, va au bureau de poste. Tu sais, une voix intérieure. Elle dit, Richard, va au bureau de poste. Je vais au bureau de poste. Dans la boîte à lettres, donc c'est les cases postales au bureau de poste. Dans la boîte à lettres, j'avais une lettre avec un chèque. Ce chèque-là, c'était un contrat que j'avais fait. Je n'avais jamais été payé. Le monsieur me disait qu'il n'y a pas d'argent. Je l'avais oublié. Mais là, 2 ans après, ce chèque-là arrive au bureau de poste. Au moment que j'en avais le plus besoin. Je peux vous dire que ça a stimulé ma foi. Ça a stimulé ma foi. Parce que j'avais une expérience avec Dieu. J'avais une expérience avec Dieu. Si on reste toujours dans notre zone de confort, on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Jackie Pullinger est allé hors de sa zone de confort et puis elle a vu la grâce de Dieu. Deuxièmement, croire qu'il accomplira ce qu'il a promis sans tenter d'accélérer les choses. Cela ne veut pas dire que nous devons attendre que Dieu agisse à notre place. Bon, ça, les cultivateurs le savent très bien. Hein? S'ils prient pour avoir des bonnes récoltes puis ils ne font pas de semences, ça ne marchera pas. Hein? Fait que faut faire des choses. Dans la mesure que ça dépend de nous, là. Soyons assurés qu'elle accomplira ce que nous ne pouvons faire par nos propres forces. Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Obéir sans discuter. Oh, ça, c'est pas facile. Agir selon sa volonté divine et non pas suivant la nôtre n'est pas toujours facile. Paul nous encourage à ne vivre que pour Christ, notre moi étant crucifié chaque jour. Ça, c'est un point crucial. Parce que quand on prend un temps, bon, nous, c'est le matin, donc il y en a d'autres, c'est le soir, il faut effectivement consulter Dieu, voir est-ce que je te glorifie par ma vie? Est-ce que j'ai été crucifié avec Christ? Est-ce que les autres passent avant moi? Pas facile, ça. Quand on a des enfants, c'est plus facile. On ne se pose pas de questions, on se lève le matin, puis on s'occupe de notre famille. Puis... Mais vous direz bien, quand on arrive à la retraite, on veut se faire plaisir. Là, je suis rendu à cette période-là. Puis en préparant cette étude-là, donc, faisons-nous entièrement confiance au Dieu de la Bible. Avant ça, c'est « Richard, est-ce que tu fais confiance au Dieu de la Bible? »« Ben oui, je fais confiance au Dieu de la Bible. » Non. Non. Quatrièmement, notre foi est-elle simple comme celle d'un enfant? Mieux nous consacrer à Dieu, hein, et l'expérience de son amour envers nous, plus facilement nous pouvons lui faire confiance. Un enfant va faire confiance à un adulte tant qu'on ne lui compte pas de mensonges. Une fois que l'enfant se rend compte qu'on lui compte des blagues, là, ça va être difficile de faire confiance. Mais la Bible ne compte pas de mensonges. C'est ça qui est extraordinaire. Cinquièmement, sommes-nous totalement engagés à accomplir sa volonté et poursuivre ses desseins? Est-ce qu'on est engagé? Totalement. Si Jésus-Christ est notre maître, ou la maître de notre vie, et qu'il demeure en nous, cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Mais cela prouve aux autres que nous lui appartenons. Je vais répéter. Mais cela prouve aux autres que nous lui appartenons. Si nous doutons, prions. On en revient au verset 11 du psaume 86. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Unifie mon cœur, ça veut dire d'être en communion avec Dieu. Ça veut dire d'être en communion avec Dieu. J'aimerais qu'on regarde le psaume 18. C'est toujours un psaume de David. Psaume 18. Il dit au verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. » Ouf! quand on connaît l'histoire de David avec Saül qui voulait le tuer, effectivement, David connaissait son Dieu. David connaissait son Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est notre modèle? Est-ce que Jésus-Christ est notre modèle de patience, de bonté, d'humilité et d'amour? On peut se poser la question. Faisons-nous confiance au Dieu de la Bible? Ma prière ce matin, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie, de sa paix, par notre confiance en lui. Ainsi, notre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un verset que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien, Romains 15, 13. Prions. Dieu notre Père, bien souvent on veut te faire confiance. On lit des textes bibliques. On regarde la commission que tu as donnée à tes disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisés en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que notre relation avec toi est suffisamment forte pour qu'on puisse justement aller vers nos voisins, aller dans nos familles pour parler de toi, pour partager ce que tu as fait, ce que tu fais dans nos vies et ce que tu peux faire dans leur vie. Oui, Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de toi en tant qu'assemblée, en tant qu'individu, pour aller justement dans la moisson. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Puissions-nous ce matin se tourner vers toi, t'implorer. Comme David le faisait, il répandait son cœur devant toi. Puissions-nous unir nos cœurs avec toi et te craindre d'une crainte qui nous fait agir, non pas une crainte paralysante. Merci Père pour ton Fils que tu as envoyé, justement qu'on puisse avoir un modèle. Pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, pour nous donner cette force d'agir. Pour ta gloire Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci de votre patience. Est-ce que tu as une autre chose? Oui. Tu veux-tu? Vas-tu le donner?